Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Avant d'écouter ce nouvel épisode de Aix, je tenais à partager ma dernière trouvaille extraordinaire. The Braderie, vous chopperez des pépites mode, déco, cosmétiques et voyages à des prix imbattables. C'est une application qui réinvente les ventes privées et qui est aussi le sponsor de cet épisode. Et si The Braderie est devenue la destination shopping de toute une génération avec plus d'un million d'utilisateurs et plus de 470 000 abonnés sur Instagram, c'est pas seulement parce que les meilleures marques sont à moins 70% toute l'année, comme Bash, Jonac, American Vintage, Petit Bateau ou encore Gany. C'est surtout parce que les ventes débutent sur l'application une heure avant leur mise en ligne sur le site internet. Et oui, t'as bien entendu, les ventes se lancent une heure avant sur l'app. Une raison de plus pour l'avoir toujours dans ton tel. Et avec le code promo X15, tu bénéficies de 15 euros de réduction sur ta première commande, des 60 euros d'achat. Alors n'attends plus, télécharge l'application The Braderie. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Quand on aime quelqu'un, on se dit toujours qu'on ne pourra jamais aimer plus. Et puis en fait, un jour, on rencontre sa véritable moitié. Et là, on sait, c'est la personne qui fait tomber toutes les certitudes, qui modifie toutes les habitudes. Elsa l'a trouvé, sa moitié. Et en cette Saint-Valentin, leur amour fait rêver. Un conseil, surtout, surtout, écoutez cet épisode jusqu'à la fin.
Alors, j'ai 22 ans. C'est le 22 avril 2012 et c'est le jour de l'obtention de mon diplôme. On est une dizaine de copines dans une coloc qui fête la fin de la vie étudiante. Ça fédère pas mal et du coup, il y a pas mal de garçons qui, à ce moment-là, débarquent à cette soirée. Et dans tout ce flot de personnes qui viennent fêter avec nous ce diplôme, il y a la bande de copains de ma copine Alice. Et dans cette bande de copains, il y a Guillaume. Guillaume, c'est le beau brun ténébreux qui ne le sait pas. Donc, c'est vraiment ce qui fait tout son charme. Il fait du skate, il est batteur dans un groupe, il est engagé politiquement, il est un peu plus âgé que moi. C'est un peu le Drazik d'Arclay Cœur à Vif. Je l'ai déjà remarqué d'ailleurs quelques soirées auparavant, mais ma situation amoureuse ne me permet pas trop de m'intéresser à lui à ce moment-là. Mais là, le 22 avril 2012, je sens nos regards qui se soutiennent quand même de plus en plus au fur et à mesure de la soirée. Clairement, je vois que lui, il prend absolument toute la place à ce moment-là. Puis après, on va en boîte de nuit. La soirée se prolonge aussi chez une connaissance commune. Et puis après, il m'aide à raccompagner une de mes meilleures amies qui s'est endormie dans un buisson en faisant pipi. Il m'aide du coup à la raccompagner chez elle. Et puis, au fur et à mesure de la soirée, le cercle se restreint un peu et puis on se retrouve après tous les deux chez lui. On finit par faire une sieste dans un parc, le beau parc de la Cure d'Air à Nancy qui surplombe toute la ville. Et là, c'est l'échange de nos premiers bisous. C'est fort, c'est intense. À ce moment-là, je ne sais plus trop comment je m'appelle, je ne sais plus trop où j'habite. Il me raccompagne chez moi. Je pense beaucoup, beaucoup à lui. Et je prends rapidement la décision de quitter la personne avec qui j'étais parce que je sens qu'il s'est passé un truc et qu'il n'était pas anodin. On se rejoint le lendemain et c'est le début d'une histoire d'amour. On fait tout ensemble. Il est un peu plus âgé que moi, il est un peu engagé politiquement, il a une forte culture musicale, donc il m'amène un peu dans son univers. Ouais, j'ai rapidement un peu d'admiration pour lui, pour son groupe de copains. je tombe folle amoureuse de lui. Ouais, à ce moment-là, je nourris justement un projet depuis bientôt un an avec des copines de partir une fois l'obtention de notre diplôme pour vivre sur l'île de La Réunion. Quand on est infirmière, quand on est dans le paramédical, dans le médical, c'est un peu une destination phare où on sait qu'on peut trouver rapidement du boulot et qu'on peut en plus mêler l'exotisme, l'aventure, la nature à tout ça. Donc on décide de partir. Et évidemment, ma relation avec Guillaume ne remet pas ce projet en question. Lui valide aussi ce projet. Alors dans les mots, c'était vas-y, évidemment, c'est un projet que tu nourris depuis longtemps, je veux pas être celui qui te bride. Donc j'y vais, on se met un petit peu d'accord sur la temporalité, sur le fait de pas partir non plus 2 ans. Donc on se dit que je pars entre 6 mois et 7 mois. À ce moment-là, j'avais aussi besoin de me prouver des choses. J'avais une soif de découverte, une soif d'apprendre sur moi. Et puis, je me rends compte que la distance est compliquée pour Guillaume. Je comprends que lui reste dans son quotidien et que moi, je m'échappe vers d'autres horizons, donc que ça peut lui faire peur. Il y a le manque, évidemment, qui est difficile, mais je pense surtout que c'est le fait que je vive des choses sans lui. Le fait que je puisse me réaliser à un moment donné sans lui, et que ça, c'est une idée insupportable pour lui, de m'épanouir sans lui. Ça le fait terriblement peur. Donc c'est des heures et des heures de réassurance par téléphone, par Skype, c'est quotidien. Et je me rends compte que nos échanges, de plus en plus, c'est pas forcément des échanges pour se raconter, mais c'est des échanges pour le rassurer. Évidemment, je prends sur moi, je me dis que sa situation est pas facile. Il vient me rejoindre au mois de décembre. Donc là, je me dis que c'est super parce que après, déjà, on aura vécu une expérience là-bas ensemble, et puis qu'après, il reste 4 mois loin l'un de l'autre et que la distance là peut se relativiser. Je me dis qu'une fois qu'il sera venu, il aura vu aussi où je vis, il aura pu poser son regard aussi sur la maison que j'occupe, sur les paysages que je vois, sur les gens que je fréquente, et que ça va aller. Et quand il repart, non, c'est toujours autant compliqué. Il n'y a pas vraiment de confiance du coup qui s'installe. Et pour lui, à tout moment, je pouvais me détourner de lui. Toutes ces peurs sont liées à la peur que ça s'arrête et que du jour au lendemain, je lui dise que j'ai rencontré mieux ou que je préfère être célibataire ou que je veux vivre ma vie et que je veux pas revenir. Ça me fait quand même un peu peur parce que à cette période-là, j'ai en plus quelques échos. Pendant que je suis sur l'île de La Réunion, son papa rencontre ma mère par hasard. Ils se sont vus une ou deux fois, je crois, un petit peu avant que je parte. Et ils se rencontrent par hasard et le père de Guillaume dit à ma mère « Il est temps que votre fille rentre parce que notre fils est en dépression. » Et quand ma mère me rapporte ces propos-là, je me dis que ça prend quand même des proportions un peu... peut-être un peu exagéré de mettre un mot de dépression sur ça. Alors après, je me dis que voilà, je suis partie au début de notre histoire et que peut-être les bases n'étaient pas assez solides et donc qu'il a besoin, comme ça, sans cesse de réassurance. Je rentre du coup au bout de 7 mois. Quand je rentre, c'est... un peu compliqué parce qu'on se retrouve à Paris et Guillaume est né le 8 avril et moi je dois rentrer vers le 20 avril. Il me verbalise en tout cas ce reproche-là en disant qu'il est déçu que je ne sois pas rentrée au moment de son anniversaire. Bon, alors je comprends, j'acquiesce ce qu'il me dit et puis je me permets juste de lui dire que je rentre 10 jours après et que son anniversaire, on peut évidemment le fêter et que c'est ce qu'on fait. Je me dis bon, c'est tout ce qu'il a attendu depuis 7 mois et puis non, il y a quand même une teinte comme ça, un peu de reproche parce que après l'île de La Réunion, j'en ai profité pour voyager un petit peu autour dans l'archipel indien, notamment à Madagascar et voilà, pour lui c'était encore une énième découverte sans lui. Et je pense que ça, c'est ce qui le heurtait énormément. où au final c'est pas si détendu que ça et je me dis bon, c'est dommage, mais voilà, encore une fois, je passe au-dessus. Nos moments, on arrive quand même à retrouver de la légèreté, à passer des bons moments, à se projeter ensemble dans l'avenir. Donc voilà, je porte pas plus attention à ça. On décide de s'installer ensemble. À ce moment-là, Guillaume faisait une thèse qu'il a décidé d'arrêter. Il recherche du travail. Moi aussi, je recherche du travail. Je trouve un poste que je convoitais depuis un moment dans un centre hospitalier près de chez nous. Guillaume, lui, ne trouve pas de travail. On est dans une région où l'emploi, c'est pas forcément l'offre excessive. Donc, au bout de plusieurs mois de chômage, évidemment, son moral commence à en prendre à coup. Il décide de postuler ailleurs. Et puis, il trouve un travail près de Paris. Il aimerait que je le suive, sauf que à ce moment-là, pour moi, j'ai 23 ans, je me sens pas prête de partir loin de mes amis, loin de ma famille, en banlieue parisienne. C'est pas forcément à ce moment-là ce qui me donne envie, mais je le rassure en disant qu'on est au début de notre histoire et que moi j'ai vécu aussi mon expérience et que lui peut aussi vivre la sienne parce que c'est une super opportunité professionnelle. Il décide de partir près de Paris. Et là, je me dis que ça va évidemment bien se passer parce que c'est plus du tout la même distance que lorsque j'étais sur l'île de la Réunion, que là, c'est une distance qui se relativise très bien, c'est-à-dire qu'on se retrouve les week-ends, on se retrouve pendant les vacances, on se retrouve aussi en semaine parce que moi, des fois, je peux poser des jours de congé. Et à nouveau, c'est très compliqué pour Guillaume de supporter cette distance. Pourtant, il est en colocation, il a un travail qui le passionne avec des collègues jeunes, une équipe dynamique. Je me dis, on a tout, chacun est heureux dans son boulot. C'est à nouveau culpabilisant dans son discours. Je sens qu'il m'en veut du fait que je ne l'ai pas suivi, que j'ai pas pris la décision de partir avec lui. Sans cesse, c'est à nouveau de la réassurance sur notre lien, sur les sentiments que j'éprouve pour lui. Je sens dans son discours qu'il y a beaucoup de reproches sur le fait que je vois mes amis la semaine, sur le fait que moi, je ne déprime pas. Donc, il me reproche de ne pas déprimer. Et je pense que le degré de déprime pour lui signifie le degré d'attachement à lui. Donc, je me bats sans cesse pour lui dire que c'est pas une bonne échelle de mesure, que l'amour que j'ai pour lui est réel, que oui, cette situation, je la supporte parce que je sais qu'elle est temporaire. Ça dure 3 ans où tous les jours, je sens petit à petit qu'il sombre, que même les week-ends, c'est difficile de le reconnecter à nous, que dès le dimanche matin, il est déjà dans l'angoisse de partir le dimanche soir et de me laisser seule. J'ai pu identifier à ce moment-là que c'était pas tant le manque, en fait, que c'était surtout le fait qu'il ne soit pas là et qu'il ne soit pas à côté de moi à chaque instant. C'est de la jalousie, c'est de la possession, c'est ne pas maîtriser sans cesse ce que je fais, ne pas être avec moi à chacun de mes moments sans lui, ça lui est insupportable. Au bout de 3 ans, pour notre couple, il décide de revenir à Nancy. À ce moment-là, dès qu'il revient, effectivement, je prends soin de lui, il prend soin de moi aussi. Ça va mieux. Il trouve rapidement du boulot à Nancy. Donc là, pareil, il y a un équilibre qui se fait. On décide d'acheter un appartement, qu'on concrétise quelque chose, on accède à la propriété ensemble. Et puis en fait, c'est très éphémère. La sérénité amoureuse ne dure pas parce que en fait, ces angoisses sont déplacées ailleurs, sont déplacées sur des soirées, sont déplacées sur des moments où je m'accorde sans lui, avec mes meilleurs amis, avec Martin, avec Mathieu, où c'est très compliqué pour lui de gérer ça. Donc c'est énormément de conflits liée à, au moment que je m'accorde. Donc en fait, c'est le problème est sans cesse déplacé et le problème est toujours le même. Chaque moment que je ne vis pas avec lui, c'est quelque chose de volontairement choisi et c'est qu'à ce moment-là, je ne préfère être sans lui. C'est toute une mécanique de pensée très très loin de la mienne, où pour moi, avant d'être un couple, on est évidemment une personne singulière avec ses propres envies et qu'à un moment donné, on ne peut pas se calquer entièrement sur les envies de l'autre. C'est ça qui est un peu insidieux, c'est que Guillaume, ce n'est jamais le jaloux impulsif qui va faire des scènes en public, qui va crier, qui va m'insulter, absolument jamais. C'est en public, ça va. Et puis quand on rentre à la maison, là, c'est plus sombre. C'est je t'ai vu parler avec lui et à ce moment-là, tu ne m'as pas intégré à votre conversation. C'est tu as été chercher une bière toute seule lors d'un concert et tu n'as pas pensé à moi, tu m'en as pas ramené une. Si je vais aux toilettes dans une soirée, où est-ce que t'étais ? Parce que chaque moment où je ne suis pas à côté de lui, c'est pour lui... toujours un peu comme si je lui échappais. Donc c'est pesant, c'est très lourd. Sans cesse, je suis renvoyée au fait de ne pas l'aimer assez, de ne pas l'aimer assez bien, de ne pas l'aimer comme il faut. Et ça devient évidemment plus tenable dans la durée. Je décide du coup en octobre 2018 de le quitter, de partir, parce que c'est évidemment trop de pression pour moi. Et puis je crois que aussi... je sentais que ma liberté était un peu restreinte et plus elle est restreinte et plus au final elle est fantasmée. Donc à ce moment-là, je décide de le quitter. C'est difficile pour lui. Il me dit que effectivement, il comprend pourquoi je pars. Guillaume est quelqu'un de très intelligent, donc il comprend les choses. On a énormément communiqué autour de la relation, de l'amour, de la pérennité d'un couple. Donc il comprend. Il dit qu'effectivement, ça doit être pesant, qu'il faut qu'il aille voir quelqu'un, peut-être pour s'apaiser, pour trouver des outils de lâcher prise. Il fait la démarche, qui est sincère, je le sais, d'aller voir quelqu'un. Et puis je me dis que je ne peux pas, après 8 ans, partir comme ça, que je nous laisse une seconde chance. Donc je reviens quelques mois après. Et puis non, et puis ça dure 1 an et ça va toujours pas. Parce qu'à ce moment-là, je fantasme aussi clairement le célibat et le fait de ne pas rendre de compte et le fait de juste pouvoir librement agir et suivre mes envies. Et Guillaume, je sens que la parentalité est présente pour lui. Il a envie d'avoir un enfant avec moi, que je suis la bonne personne. Et quand il me convoque à cette éventualité-là, je suis loin parce que pour moi, les bases ne sont pas solides, parce que la confiance n'est pas là, parce que depuis 8 ans, 9 ans même, on traîne les mêmes conflits, les mêmes débats. Donc je ne veux pas lui faire perdre son temps et je ne veux pas... Et surtout, je me rends compte qu'il souffre, que celui, évidemment, qui souffre le plus, c'est lui, de cette relation. Donc, je pars. Je pars en novembre 2019. On décide de vendre l'appartement. C'est une séparation qui est douloureuse pour Guillaume, avec des moments où il perd totalement pied. Dans un premier temps, et puis il y a aussi toujours, quand on quitte quelqu'un, le doute qui est là, qui plane. Il y a plein de choses qui se mélangent. Il y a aussi la lune de miel de la séparation où enfin, on pose les valises et on est libre et on peut prendre la direction qu'on veut. J'ai envie de vivre cette liberté à fond, donc je sors pas mal, je fais pas mal la fête. Je me rapproche à ce moment-là aussi vraiment de mes amis, parce que c'était toujours compliqué. Donc je profite à fond, je vais à des concerts et je vais surtout dans mon bar préféré, qui est La Buvette, qui est un bar où il passe du hip-hop, tenu par une superbe femme, Marie. Donc j'y vais souvent avec mes amis, des fois seule aussi, parce que c'est un bar où on peut toujours se connecter à quelqu'un qu'on connaît, de près ou de loin. Et puis, un soir, j'arrive dans ce bar et je vois Hugues. Hugues, c'est quelqu'un que je connais depuis 10 ans. Parce qu'en 2008, quand j'étais étudiante, il a essayé de pécho ma coloc, qui était sa prof de sport. Il n'a pas vraiment réussi. Enfin, il lui a roulé quelques pelles contre le frigo. qui sont immortalisées par des photos. Mais ça a pas donné grand-chose parce qu'à ce moment-là, ma coloc, qui est une de mes meilleures amies, faisait son coming out. Et du coup, voilà, il a pas vraiment été au bout, mais on avait été, en tout cas, passer une soirée ensemble où on a fait notre premier selfie à 18 ans, 19 ans. Et à ce moment-là, je ne le regarde même pas, il a des pics sur la tête. Espèce de chaîne autour du cou, de costard ringard, enfin, vraiment absolument pas mon style. Un peu prépubère comme ça, lui qui fait très très jeune. Physiquement, j'ai pas du tout le déclic. Il ne me fait vraiment aucun effet insipide. Donc voilà pour la première connexion avec Hugues. Et ensuite, Hugues est devenu le petit ami de la sœur d'une de mes meilleures amies. Donc on se connaissait comme ça à quelques occasions. On pouvait se recroiser aux anniversaires de sa petite amie que je connais et de sa belle-sœur qui est du coup une de mes meilleures amies. Je le croise peut-être deux fois par an. Il se passe absolument rien quand on se croise. J'ai le souvenir d'une discussion. Il revenait du Tiget Festival en Hongrie et étant pas mal adepte des festivals et des concerts, voilà, on avait pu échanger là-dessus. Mais c'est tout. J'ai aucun souvenir de grandes discussions, de regards langoureux, absolument pas. Et puis, ce soir-là, le 15 décembre 2019, je le vois dans ce bar. Quelques temps avant, lui s'était séparé de Manon, de la petite sœur de ma copine. Et j'avais un petit peu suivi les raisons qui l'avaient amené à se séparer. Et effectivement, quand j'entendais parler de leur rupture, même avant que je quitte Guillaume, il y avait quelque chose où je me sentais un peu connectée à ses raisons aussi et à sa soif de liberté. Donc, ça m'avait un petit peu interpellée. Et puis, son ex-belle-sœur, mon amie, me disait « Ah, Hugues et toi, il y a quelque chose. Il y a quelque chose juste dans la manière de vivre, dans vos aspirations. Vous m'avez toujours fait penser un peu l'un à l'autre. » Il y a quand même ces phrases qui sont dans ma tête. Et puis, je rentre dans ce bar et je vois Hugues. C'est un bar avec peu de lumière. Et il y avait juste un halo de lumière qui éclairait Hugues. Il avait une casquette à l'envers, un sweat à capuche, nettement plus stylé que 10 ans auparavant. Et je sais pas, il avait surtout un visage doux, toujours sa petite tête de minet. Par contre, pour le coup, je l'avais pas recroisé quand même depuis un petit moment. Ce soir-là, j'avais pas super envie de sortir. C'est un peu mes potes qui m'ont boosté parce que justement, j'étais un peu en déprime. Je venais d'avoir mon nouvel appart. On allait bientôt signer avec Guillaume la vente de notre appartement. Et puis, j'étais pas dans un super mood. Et quand je suis rentrée dans ce bar et que j'ai vu Hugues, j'ai eu un sourire spontané que je peux pas expliquer. Alors que, ouais, il ne m'avait jamais rien provoqué auparavant. Je suis allée le voir parce que j'avais l'impression qu'il avait quand même des choses à m'apporter par la rupture aussi qu'il venait de vivre. Donc, j'y suis allée. Je me suis pas démontée. J'ai bu ma bière cul sec et j'ai dit, OK, vas-y, elles ont voulu parler. Et je me suis présentée à lui sans aucune stratégie de drague ou de séduction. Salut Hugues, tu te souviens de moi, c'est Elsa. Voilà, je suis célibataire, je viens de quitter Guillaume. Je sais pas si je fais le bon choix. Rassure-moi, comment toi t'as vécu cette rupture avec Manon? Comment tu te sens aujourd'hui? Et puis, il a eu des mots rassurants et en même temps pas trop. J'avais beaucoup de discours de mes potes et que je remercie plus que tout, mais très enveloppants. Et lui, il a un discours à ce moment-là plutôt percutant. Il me dit, écoute ma grande, ça fait 9 ans que t'étais avec ton mec, bien sûr que la personne qui quitte, elle a des doutes et c'est pas évident et tu dois aussi te confronter à ça. Il me remet un peu la réalité en face, il me dit, par contre, on ne se remet pas avec quelqu'un parce qu'on avait un bel appart avec une hauteur sous plafond et des moulures et un petit jardin où on pouvait accueillir des copains. Il me dit ça, arrête tout de suite. Et je sais pas, il y a quelque chose de percutant dans ce qu'il me dit. Ça m'intéresse. Puis, vu qu'on finit cette discussion, on se prend un peu dans les bras, mais c'est assez furtif. Il me dit, allez, salut Elsa, bon courage à toi. Et puis, il se barre. Et quand il se barre, j'ai quelque chose, je sais pas, je le regarde déjà partir et quitter le bar. Je pense que avec le recul, je suis un peu déçue qu'il parte. J'aurais bien voulu continuer un peu plus la conversation. Et à ce moment-là, je n'ai ni son numéro, je ne suis pas du tout amie avec lui sur les réseaux. Mais le soir, en rentrant chez moi, j'ai envie de continuer cette discussion, donc je le recherche sur Instagram, je crois. Je lui écris un petit texte et puis je lui envoie. Je le remercie pour ses mots, je le remercie de m'avoir un petit peu remis quand même les idées en place, parce qu'à ce moment-là, j'étais quand même empreinte de doutes et j'étais avec Guillaume, on allait signer 2 jours après pour la vente de notre appartement chez le notaire. Et du coup, je le remercie et je lui dis qu'il me donne la force en tout cas d'aller au bout de ça. Et effectivement, 2 jours après, je me retrouve chez le notaire et je ne sais pas, à ce moment-là, il y a Hugues qui est avec moi, clairement, qui m'accompagne. En tout cas, ses mots, son discours résonnent clairement dans ma tête à ce moment-là. Je lui envoie, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse le lendemain, pas le surlendemain, 2-3 jours après non plus. Donc je me dis, le mec s'en fout. Je me dis, les galères du célibat, c'est ça, c'est de se prendre 2-3 vents. Ça doit faire partie un peu du truc. Donc au niveau estime de soi, moi qui ne fais absolument jamais aucune démarche de drague, j'avoue, je m'en prends un peu un coup. Mais je me dis, bon, bah tant pis, t'as ressenti un petit truc. C'est pas réciproque, ça arrive. Et voilà, et c'est comme ça. Mais j'arrive pas non plus juste à me dire ça, je pense un peu trop d'ego ou je sais pas, et je me dis faut quand même que je le recroise. Donc je décide de retourner à la buvette assez régulièrement. J'y vais le jeudi, le vendredi, le samedi. Je ne sais absolument pas s'il va y être. Nancy, c'est une petite ville, il n'y a pas 1 million de bars cool. Possiblement, il peut y retourner, mais non, je ne sais pas du tout, j'ai aucune certitude qu'il puisse être à cet endroit-là ce week-end-là. J'ai de la chance. Le samedi soir, je le vois arriver dans ce bar. Je me dis, je m'en fous, enfin, j'y vais. Moi, je veux absolument savoir s'il ne m'a pas répondu parce qu'il me snob, parce qu'il s'en fout, parce qu'il n'a pas vu. Enfin, il me faut la réponse, quoi. Je vais le voir et je lui dis « qu'est-ce que tu fais ? Tu m'as pas répondu, je suis en stress. » Enfin, je lâche tout, quoi. Aucune stratégie derrière la tête. Et puis là, je sens qu'il est interpellé et qu'il est un peu décontenancé par le fait que je lui ai écrit. Il me dit qu'il a absolument pas vu mon message, que apparemment quand on ne s'est pas ajouté avant comme contact, on ne voit pas les messages. En tout cas, c'est ce qui est arrivé. Et du coup, il est désolé, s'ajoute et on continue à discuter. Et là, on passe quand même une bonne partie de la soirée ensemble et on parle de plein de choses. Là, je sens qu'en tout cas, il y a une connexion qui se fait, et à nouveau je le regarde et ça me procure la même chose que la première fois où je l'ai vu dans ce bar. Je le trouve lumineux, je le trouve percutant, je le trouve drôle, moi qui le trouvais physiquement pas forcément trop à mon goût, je le trouve hyper beau ce soir-là, encore plus que la première fois. Chacun rentre chez soi à la fermeture du bar, mais par contre ça y est, on commence les échanges hors soirée. On discute pas mal, puis on décide de se revoir au mois de janvier. On décide de se revoir dans ce bar où on s'est vu. Là, c'est notre premier rendez-vous. Je le sens stressé, donc ça me touche parce que je me dis que c'est qu'à ce moment-là, il n'est pas insensible. Moi, je suis complètement stressée aussi. Je m'arrête un petit peu des fois sur l'instant qu'on vit et je nous regarde et je nous trouve assez touchants. On s'avoue tous les deux qu'on est des gros fans de PNL et je sais que c'est un peu honteux parfois. En tout cas, on se libère de ce poids-là ensemble et on finit la soirée chez moi. On se découvre et plein de choses en commun. Notre rapport à la liberté, il est végétarien, il est conscient, il vote à gauche. Son rêve, c'est de partir sillonner les routes d'Europe avec un camion aménagé, un van ou un camping-car. Enfin, il a les mêmes aspirations que moi, les mêmes regards sur le monde que moi. On est tout de suite très très connectés. Il me fait mourir de rire, mais c'est... cette soirée-là, j'en ai des crampes au ventre tellement on se marre et en même temps, j'ai l'impression d'être avec mon meilleur ami et j'ai l'impression de le désirer aussi chaque seconde de plus en plus. Très très vite, je le regarde et je me dis mais en fait, c'est ce mec est une bombe atomique. Après la soirée dans le bar, on rentre à la maison, on rentre chez moi dans mon petit appartement, on écoute du PNL, on met les vinyles de PNL et là c'est parti, on se fait toute la discographie, on danse tous les deux, on est seul au monde, il n'y a que nous qui comptons à ce moment-là. Je ressens dans son regard et dans le regard qu'il pose pour moi le même élan qui émane également, je le sens animée par plein de choses et il me laisse aussi aller. Et rapidement, après cette soirée-là, on ne se quitte plus, on passe absolument tous nos moments ensemble, on dédie tout notre temps l'un à l'autre et chaque moment passé ensemble est de plus en plus fort, de plus en plus évident. J'ai jamais autant ri qu'avec Hugues. Puis au mois de mars, le confinement, Hugues perd rapidement son travail, il travaille dans l'événementiel, tout s'arrête pour lui, donc on a encore plus de temps ensemble, à la fois c'est dramatique et à la fois on est les plus heureux du monde. Hugues vend son appartement en plus dans la foulée, c'était déjà un projet qu'il avait. On se retrouve confinés tous les deux, je pense qu'on est les deux seules personnes à ce moment-là à vouloir que ça continue pour toujours. On passe des soirées à danser tous les deux, à écouter de la musique, on cuisine, on va dans la nature, on se balade, on fait des siestes dans la nature, on marche main dans la main. Le silence avec lui ne me fait pas peur, rien ne me fait peur à ce moment-là avec lui. On est complètement déconnectés de tout, on est dans notre bulle tous les deux. C'est mon âme sœur, c'est à ce moment-là la personne que j'ai toujours voulu dans ma vie. Je pensais même pas qu'on pouvait ressentir tout ça. Moi qui prenais aussi pendant très longtemps l'indépendance, là je me sens complètement dépendante de lui et même un moment sans lui me paraît une éternité quand je dois aller travailler parce que je suis infirmière, donc évidemment je continue mon activité. C'est un déchirement. Le retrouver est un peu ma seule motivation, donc je me pose aussi des questions sur le lien que j'ai avec lui et puis je me laisse juste porter évidemment par les sentiments amoureux qui m'envahissent à chaque instant et dont je sens la réciprocité, et ce qui aussi nous rend fort dans notre histoire d'amour. Et puis, il y a la fin du confinement. On est triste parce qu'on sait que les devoirs sociaux vont reprendre et la vie va reprendre un peu plus de manière normale. Donc on décide de fêter la fin du confinement, de s'offrir une petite bulle d'amour et d'aller du coup dans un très beau massif montagneux qui est près de chez nous, qui est les Vosges. Et on va faire de la randonnée, on va se faire un bon repas, on passe la soirée en forêt et après dans un petit chalet. On retrouve quand même des copains qui sont là à ce moment-là, donc on va boire quelques verres avec eux, mais le but est vite de se retrouver tous les deux. On rentre à Nancy et puis quelques semaines après, j'apprends que je suis enceinte. C'était absolument pas prévu, c'était évidemment un accident, c'est arrivé comme ça. Quand je l'ai appris et quand je lui ai appris, à nouveau l'évidence qui nous convoque et on a juste des sourires d'enfants sur nos visages et je l'explique absolument pas. Moi, pour qui la maternité n'a jamais forcément été une chose évidente, et ben là ça l'est, c'est simple, on est heureux, je suis heureuse, il l'est aussi. Et on s'est laissé un léger délai de réflexion, mais On savait très bien qu'on se projetait évidemment ensemble dans cette aventure, amoureusement et très fort et très confiant dans notre lien. Ça a fait beaucoup parler autour de nous. On s'est confronté à des réactions qui n'étaient pas forcément toujours évidentes à recevoir, mais notre seule réponse était l'amour qu'on nourrissait l'un pour l'autre. Et on se lance dans cette aventure à fond. On décide du coup de déménager parce que l'appartement que j'avais pris en quittant Guillaume était petit, évidemment, et on ne pouvait pas accueillir un enfant dans ce logement. Donc on se lance et puis on trouve une maison, une petite maison de ville magnifique qu'on investit. Là, on est au mois de juillet, c'est l'anniversaire de Hugues. On passe l'échographie le lendemain de l'anniversaire de Hugues. On est parti sur Bruxelles se faire un petit week-end pour son anniversaire. Et on revient le lundi et on passe cette échographie. Donc on y va, main dans la main, plus amoureux et plus soudés que jamais. Et puis, c'est le Covid, donc il faut toujours remettre dans le contexte sanitaire où normalement les futurs papas sont un peu évincés de tout ça. Et puis on arrive un peu à soudoyer la sage-femme qui accepte que Hugues vienne pour la première échographie. Donc à ce moment-là, on est deux enfants qui allons découvrir notre bébé. La sage-femme m'installe sur la table d'examen. Il y a un énorme écran qui est projeté devant nous avec du coup l'image de notre bébé. Donc à ce stade-là de la grossesse, c'est déjà un fœtus, donc on voit absolument tout, la tête, les jambes, les bras. Elle nous explique l'anatomie à ce moment-là du fœtus. Je sens son visage qui se fige. Hugues me regarde, ne comprend pas. Moi, je comprends très vite qu'on n'entend pas le cœur du bébé battre. Et puis, elle nous l'affirme. Elle nous dit qu'il y a un problème, que l'activité cardiaque s'est arrêtée. À ce moment-là, c'est la chute émotionnelle, c'est la descente aux enfers, c'est le sol qui s'ouvre sous nos pieds, c'est l'insouciance qui rencontre le choc et la souffrance en même temps. C'est un mélange d'émotions très fort. Et rapidement, on est embarqué dans les suites médicales parce que c'est une urgence vitale et que du coup, il faut rapidement évacuer le fœtus. Pas d'anesthésie générale parce que c'est le Covid, donc on ne prend pas le risque de faire une anesthésie générale. Donc c'est des conditions sanitaires difficiles où on est exposé, où tous nos sens sont développés donc on voit tout, on sent tout. On vit ça à deux avec Hugues. Ouais, je le découvre sensible, je le découvre fort à la fois, je le découvre dans la communication, c'est-à-dire qu'on pose des mots ensemble, on confronte nos émotions qui sont pas toujours les mêmes au même moment, à ce moment-là. Et puis l'opération, c'est quand même moi qui l'ai subie, donc il y a aussi toute cette partie-là physique où mon corps, mon intégrité physique est aussi atteinte, celle de Hugues non. Il me tient la main en permanence, il m'accompagne en permanence et en même temps il s'en fout aussi d'être fort, et s'il doit craquer, il craque aussi. Et c'est ça qui me touche, c'est de le voir pas comme une figure virile et masculine, mais comme quelqu'un aussi de très sensible. Complètement le découvrir à ce moment-là, dans la tristesse et dans la souffrance, et dans la perte, qui sont quand même des émotions fortes, me font dire que je l'aime encore plus. Et j'oublierai jamais cet héritage commun et qui n'a fait que solidifier encore plus cet amour, qui nous a aussi permis d'aménager dans notre cocon où aujourd'hui on est les plus heureux du monde. Et du coup, voilà, après on a décidé de prendre du temps pour nous et de partir. On est parti, on a baroudé pendant un mois, on a pris la route, on est repassé par les Vosges, là où on avait conçu notre petit bébé. On est redescendu sur l'île de Ré, à La Rochelle, et puis on a été en Corse tous les deux. On a beaucoup parlé, on a été aussi très silencieux, on s'est accordé aussi nos moments à nous de digestion émotionnelle. Et on a été un petit peu naïfs parce qu'on s'est dit qu'on pensait qu'une fois revenu, c'était totalement digéré. Et puis en fait, non, ça a été un petit peu plus long. Il y a eu des flashs qui sont revenus. Mais on a toujours été dans la communication l'un envers l'autre. Toujours une fluidité dans nos rapports et dans nos connexions émotionnelles qui font que je sais que c'est digéré et que notre projet est évidemment celui de fonder une famille ensemble. Cette parentalité, en tout cas, on la veut ensemble et main dans la main. Et aujourd'hui, ça fait un an que je suis avec Hugues. Et je n'ai jamais été aussi heureuse. Je vis ma meilleure vie avec lui. Chaque jour quand je pars au travail, mon but est de le retrouver le soir. Je suis en couple et je ne me suis jamais sentie aussi libre. Alors que pour moi, à certains moments, ça pouvait être un antagonisme. Et en fait, non. Avec Hugues, je suis Elsa et je suis libre et heureuse. C'est Hugues qui est rentré un soir à la maison et il m'a dit « Elsa, j'ai trouvé le podcast de tes rêves, c'est surtout des témoignages d'amour, essentiellement de femmes qui parlent d'amour, qui magnifient l'amour, voilà, je pense que ça peut te plaire ». Et du coup, c'est lui qui m'a fait découvrir. Donc effectivement, j'ai commencé à en écouter un, puis deux, et puis je crois que je les ai tous écoutés. On en a écouté aussi quelques-uns ensemble, main dans la main, le soir. Donc voilà, c'est moi sur scène, sur ce podcast, je pense que tu as reconnu. J'espère que j'ai bien raconté notre histoire, qu'elle correspond aussi à ce que tu ressens et à ce que tu as vécu. Et voilà, je voulais te rendre hommage à travers cette émission que tu m'as fait découvrir. Et je suis fière et heureuse de clôturer cette année par l'annonce de cette nouvelle. Voilà, si tout se passe bien, on sera trois à la fin de l'année. Et je nous souhaite de vivre cette aventure le plus sereinement possible et de continuer dans cette dynamique d'amour qui nous va si bien. Plus les planètes sont bien alignées parce qu'aujourd'hui c'est la Saint-Valentin et je te souhaite Hugues une merveilleuse Saint-Valentin et je t'aime de tout mon cœur.
Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Alexandre Ferreira qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, faites-le savoir. Mettez-nous des étoiles et des commentaires. Merci. Merci pour votre écoute et merci à The Braderie, notre sponsor. Pour rappel, avec le code promo X15, tu bénéficies de 15€ de réduction sur ta première commande des 60€ d'achat. Alors n'attends plus et télécharge l'application The Braderie.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.